chaise.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, Laurent Pelly, Christophe Martaler, Jean Genet, Joris Mathieu. Avant cela, c'est Xavier Martinet qui nous invite à le suivre dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier, ce soir, le goût de l'antique.
Eh oui, bonsoir Arnaud, l'antique, puisque cette année c'est la pièce de Sophocle, l'Antigone, qui ouvrira le Festival d'Avignon. Une Antigone sur son texte original en vers, revisité par la mise en scène du japonais Satoshi Miyagi et résolument ancré dans son temps, je cite Satoshi Miyagi, « Lorsque l'on considère qu'aujourd'hui beaucoup affirment se battre au nom des dieux en affirmant le diabolisme de leur adversaire, présenter cette pièce qui relativise l'idéologie des hommes divisée en deux clans, l'un du côté des dieux, l'autre des démons à la cour de du palais des papes prend un sens particulier. Il faut dire qu'Antigone, et c'est dû à la limpidité du mythe de Sophocle et peut-être de la reprise de Jean Anouilh, reste une des pièces les plus reprises dans le monde, une reprise antique qui ne sera donc pas classique puisqu'on sait déjà qu'il s'agit de mêler des danses et des cérémonies japonaises qu'on appelle Obon, la fête des fantômes, à la trame du mythe. L'événement ne sera sans doute pas anodin à Avignon alors qu'ailleurs en France, en région, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effervescence tranquille des revisitations. Parmi elles, une autre version originale d'Electre, par exemple, Sophocle toujours, le 15 avril au monastère de Brou, dans l'Ain. Une tragédie antique digne de Game of Thrones, écrit le site Sortir 1, et même une vendetta antique ponctuée de musiques et de danses contemporaines. Dans le même genre, cette année, à la Comédie de Picardie, c'est une nouvelle mise en scène des Bacchantes, une pièce sur la légitimité de Dionysos et sur les femmes, version punk selon France Info. Une mise en scène déjantée, continue-t-il, pour un texte antique qui continue de nous parler aujourd'hui, plutôt encore. En février, le théâtre de Montreuil remontait l'Œdipe roi de Télémachos Moutsadakis, déjà à Avignon l'année dernière, une pièce dont la Provence écrivait à l'époque, dans un décor restreint, les vers en grec, surtitrés en français, claquent à mesure que les comédiens s'entrechoquent, les corps brillants de sueur glissent, se croisent, se mélangent, les personnages évoluent entre violence et délicatesse. Alors moins punk peut-être que les Bacchantes, mais clairement, on peut identifier une même tendance dans laquelle la mise en scène ne veut plus se contenter du mythe et du texte pur, mais veut montrer qu'elle s'en est emparée, parfois presque à concurrence. La frontière de la réécriture, elle a été franchie depuis longtemps, mais ces dernières années, ces réécritures servent aussi des réinterprétations, peut-être particulièrement en France. Médée, par exemple, inspire toujours. La Médée, réécrite par Heiner Müller en 91, est presque un classique. Aujourd'hui, elle sera d'ailleurs bientôt au Théâtre National de Strasbourg. Et cette vague, qui a peut-être commencé il y a une dizaine d'années, la vague récente, avec deux metteurs en scène et dramaturges, que sont Wajdi Mouawad et Olivier Py. Là, si Antigone de Mouawad en 2007 avait pu surprendre assez agréablement, eh bien déjà, l'Orestie d'Olivier Py à l'Odéon, un an après, avait beaucoup moins séduit. C'est une épreuve pour Olivier Py et pour le spectateur, tiré sans concession Brigitte Salino dans Le Monde. Un spectacle lourd, grandiloquent et parfois grand guignolesque. Attitude sévère, donc des critiques lassées de trop d'effets qui dissimulent l'essentiel, disent-ils, et qui avait culminé l'année dernière, sans doute à propos du Phèdre de Christophe Varlikov. Réécrite entre autres par Wajdi Mouawad, justement, malgré Huppert, le naufrage, écrit simplement Jacques Nerson dans le Nouvel Observateur, un Phèdre incompréhensible et prétentieux, même pour Fabienne Pascaud dans Télérama. Il semble que pour l'antique, en tout cas, on se soit en partie lassé des grands effets de texte et de scène. Au Festival Première en 2015 à Strasbourg, l'humanité louait par exemple la présence des Troyennes de Ripide, totalement aboutie et percutante, mais dans un dispositif frontal et dépouillé, et une mise en scène qui mêle avec intelligence le texte original et les témoignages de femmes sur la guerre dans le Caucase. D'ailleurs, pour Prométhée enchaîné d'Eschyle à Avignon l'année dernière, Olivier Py est revenu à une certaine sobriété. Ici, pas de vidéo, pas de micro, pas de décor, pas vraiment de costume, juste une longue estrade noire posée entre deux rangées de spectateurs qui se font face. C'est ce que disait Fabienne Darche, l'envoyée spéciale du Monde à Avignon. Seule Libération était plus critique. Une série de phrases fortes qui nous viennent de l'antique via une nouvelle traduction d'Olivier Py en 2012 sur le caractère éphémère du pouvoir, etc., etc. Alors, vu de loin, on pourrait avoir l'impression, à travers certaines de ces tentatives de résurrection de l'antique, également d'une célébration du théâtre. En tout cas, la question que je voulais vous poser, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que ces pièces tragiques incite-t-elle de toute évidence à tant d'ambition, voire parfois de démesure chez les metteurs en scène? Et êtes-vous d'accord?
Alors, Beaucoup de questions, hein, mais c'est vrai que sur la... D'abord, bon, Anna Segalevitch et moi,
oui,
je ne sais pas
si
je
conteste
sur Phèdre.
Sur Phèdre, c'était un très très beau spectacle. Hein, donc
oui, enfin, le texte de Wajid Mouawad n'était pas ce qu'il y avait de mieux dans ce spectacle.
D'accord, mais c'était
d'accord
quand même
là-dessus.
Un très beau spectacle.
Non, mais moi, je suis d'accord aussi. Marie-Josée Serra,
je ne
l'ai
pas vu.
Ah bon, vous avez fait l'impasse. Joker. Le cas de l'Oresti, c'est intéressant. Je faisais un petit pointage avant l'émission, parce que Ludovic Lagarde vient d'en signer la semaine dernière une nouvelle version à la Comédie de Reims, comme l'avait fait donc Olivier Py il y a quelques années à l'Odéon. Roméo Castellucci nous a donné sa vision il y a 20 ans, on l'a revu il y a la saison dernière, ou il y a deux saisons peut-être à l'Odéon. Il y a eu le duo Ricci Forte qui a fait sa version. Et à la Fonderie, en début de saison, deux metteurs en scène irakiens, et Célipote avait aussi travaillé autour de l'Oresti. L'opéra d'Yanis Kesenakis est très régulièrement joué, ça a été le cas encore ce mois-ci à Genève. Donc, moi, je pense que revenir sans cesse, alors sur les antiques et notamment sur la tragédie des Atrides, s'explique parce qu'il y a que toute forme de relation y est présente, parce qu'on a, voilà, on a tous les sentiments, toutes les liens, frères, sœurs, père, mère, amant, inceste, toutes les perversions, les meurtres, l'amour, tout est là, la question du pouvoir, la question de la justice, enfin bon, tout est là déjà. Donc forcément, enfin, tout metteur en scène, alors généralement, quand c'est une chose que j'ai remarqué, les metteurs en scène commencent tous par le cercle de Crécourcassien, de Brecht, à peu près sur toutes les bios, on voit ça dans les tout premiers spectacles.
Plus les jeunes.
Non, ça c'était dans les années 70. Ah non, ça continue encore. Vous savez qu'il y a des jeunes vieux aujourd'hui, je peux vous donner une liste de noms des jeunes vieux dont je parle souvent ici. Ils commencent quand même par le cercle de Crécourcassien, fût-il trentenaire aujourd'hui. Pourquoi revenir sans cesse et pourquoi y revenir alors de façon contrastée? C'est vrai que moi, le Prométhée enchaîné d'Olivier Py l'an dernier, je l'avais trouvé effectivement dans une économie de forme et de moyen beaucoup plus percutant que son Oresti qui m'avait effectivement fait un peu souffrir à l'époque. Anna Segalevitch, quelques pistes de réflexion?
C'est la base du théâtre, comme vous disiez. Il y a tous les rapports, donc évidemment. Et c'est pour le théâtre, et c'est pour l'opéra aussi, bien évidemment. Autant d'ailleurs pour l'opéra voire peut-être même plus encore. Proportionnellement entre le nombre d'opéras écrits et
parce que l'opéra classique s'est beaucoup servi des antiques aussi pour des transpositions de questions de pouvoir, de questions d'argent, de questions de relations. À l'époque, il y avait ce décalage par le temps pour parler du présent.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors autant le goût de l'antique est passé, si je puis dire, le goût, l'esthétique de l'antique est passé depuis plus d'un siècle quand même. Enfin,
bon, on a encore vu des racines à colonne à la Comédie Française il y a pas longtemps.
Oui, mais bon, c'était vraiment quand même très très en vogue sous Napoléon III. De nos jours, on voit quand même les gens normaux font moins ça.
On a vu des jupettes et des spartiates il y a pas si longtemps.
C'est vrai. Vous avez raison, mais ça se fait quand même moins. Mais après, la matière théâtrale, son esprit et le ventre du théâtre, c'est la tragédie. Bien sûr, c'est ça. Donc ça me paraît évident. Et puis ces matières à retisser, à rebroder en permanence, il y a du surpiquage possible tout le temps. Voilà. Il y a Simon Stone qui est un jeune metteur en scène aussi qui monte m'aider là le mois prochain au théâtre de l'Odéon aussi, par exemple. Metteur en scène très intéressant. Enfin oui.
Il sera à Avignon aussi.
Ah, il sera à Avignon aussi.
Non, ou je me trompe. Bon, je crois qu'il sera à Avignon, il me semble. Ouais. Ou alors c'est le festival d'automne. Marie-Louise Serra, vous faites d'une moue très dubitative cette question de.
Non, mais ce qui je ne sais pas si ça m'amuse, mais en tout cas, j'ai le sentiment que beaucoup de metteurs en scène qui montent, qui reviennent aux antiques, enfin aux classiques, aux grecs, justifient cette idée qu'ils nous parlent du monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça voudrait restituer. Quoi, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on a besoin de retourner? Il y a un besoin de retourner à ces classiques-là pour parler du monde d'aujourd'hui, parce que peut-être on n'a pas les auteurs contemporains, mais enfin ça j'en doute parce qu'il y en a. Donc est-ce que c'est une facilité ou pas? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter à travers ça? Parce que qu'effectivement, vous le disiez Anna, il y a la question, enfin et vous-même Arnaud, toutes les questions sont là dès le départ du pouvoir, de la justice, de l'injustice, la place de l'étranger, le deuil, la mort, la trahison. Enfin bon, tout ça est là. Alors moi j'en suis restée, mais moi je suis très vieux. C'est du théâtre, mais c'est du théâtre à la télé. Moi je suis retombée sur les Perses de Jean Prat, tournées en 61.
D'Eschyle.
D'Eschyle, absolument, avec François Chaumette et Charles Denner.
Ça dure une heure.
Avec un jeu hiératique absolue. Je me dis, aujourd'hui, on ne peut plus jouer comme ça, mais c'est juste magnifique.
C'est vrai?
Oui, c'est magnifique, c'est bouleversant. Et il y a les statues, tous les décors sont pensés comme les statues corinthiennes. Enfin, je ne sais plus. Enfin, c'est incroyable, c'est totalement... C'est à la fois kitsch d'une modernité, d'une radicalité.
Ah, vous trouvez que c'est moderne?
Ah oui, ah, oui, c'est vrai. Très radical. Le parti pris...
c'est très radical. Moi,
complètement, oui. Moi, je me suis dit... Je l'avais vue toute petite... toute petite, et j'en avais gardé un souvenir où j'avais été impressionnée, totalement écrasée par ça, où je ne comprenais rien, évidemment j'étais trop petite, et je l'ai revue il y a 2 ans, et ça m'a bouleversée.
Ah oui, moi j'ai découvert ça il y a 2 ans, parce que c'est vrai qu'on y fait tellement référence, l'époque où à la télé il y avait Schiele à 20h30, bon... Je partage pas votre enthousiasme, c'est peut-être parce que je l'avais pas vu petit, mais en tout cas, on aimerait un peu plus de radicalité sur les antennes publiques, ça c'est sûr. Xavier Martinet.
Oui, je voulais revenir, puisqu'Anna en parlait au sujet d'Olivier Py, simplement, c'est vrai qu'il a un goût pour le théâtre antique, mais même plus qu'un goût, puisqu'il a désormais mis en scène, je sais plus, 4, 5 ou 6, voire un peu plus, pièces antiques. C'est presque une nécessité chez lui. C'est vrai que j'en ai longuement parlé, et peut-être que ça fausse un peu la perception qu'on peut avoir de ce renouveau ou de ce grand engouement pour un théâtre antique. Et cependant, j'en ai parlé aussi parce qu'il y avait quelque chose de particulier avec lui. C'est vrai qu'il a crispé ou cristallisé une partie de la critique justement autour de cette question de quand on remonte une pièce antique, pourquoi est-ce qu'il faut tant d'effets de scène et en faut-il tant finalement? C'était un peu ça la question qui se posait à travers ces critiques que je disais sévères.
Oui, il avait trop regardé l'ORTF peut-être.
Non, justement.
Non, c'est vrai qu'il était plus assez sobre.
C'était d'une sobriété absolue, oui, c'était austère. Enfin...
Non, parce que là, c'est le goût d'Olivier Py pour la déclamation et pour la profération. Et c'est vrai que dans son adaptation d'Oresti, je me rappelle qu'effectivement, c'est le pied à fond sur l'accélérateur, mais qu'il ne le levait jamais. Que c'était, moi, c'est plus un manque de contraste qui m'avait manqué dans sa mise en scène, et ce qui était le cas dans le Prométhée enchaîné de l'an dernier. Donc, voilà.
Mais Marie après, José, moi, je comprends qu'on ait besoin de remonter ces pièces-là, parce qu'on a besoin de héros. Ça doit vouloir dire ça. On a besoin de héros, de gens qui, tout d'un coup, s'élèvent, de figures comme ça, emblématiques, qui s'élèvent, qui ont le sens de la justice, qui ont le sens de la fraternité. Voilà. Et dans la tragédie des Grecs, ils y sont.
Ouais. Il n'y a pas que cela. Il y a des méchants, très, très grands méchants.
Il y a des très, très méchants, bien sûr. Mais il y a des héros.
Restons sur ces héros.